on est en répétition donc pour le Così fan tutte qui ouvre le 10 octobre.
Oui, la saison donc.
Donc c'est toujours près d'un mois de travail puisqu'on a commencé à travailler le 11 septembre. Voilà, c'est beaucoup de travail et en même
Ouais.
temps beaucoup de joie dans le travail puisque c'est Gilles Bouillon aussi qui dirige ce travail. Et
On va
donc
y revenir ouais, dessus.
voilà, il y a une ambiance formidable à chaque fois qu'il est là.
Alors, vous êtes donc chef d'orchestre, directeur de l'opéra, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tout ce milieu, votre quotidien?
Le quotidien, il est relativement varié. Dans une maison d'opéra, d'abord, c'est ce qui fait sa spécificité, c'est tous ces métiers qui se frottent les uns aux autres. C'est-à-dire, il y a d'une part les métiers de production, puisqu'une maison d'opéra, c'est une maison de production de spectacle.
Ouais.
Donc, le travail sur un spectacle commence très en amont, à coup de maquette, à coup d'échange, à coup de budgétisation, de budget matière, de
Ouais.
voilà, et ensuite on construit la production. Donc là, ça fait plusieurs mois, par exemple, que les ateliers sont sur le coup pour construire ce qui a été prévu pour Così fan tutte. Et puis ensuite, on la met sur scène, on l'éclaire. Donc là encore, il y a d'autres corps de métier qui
Qui
rentrent
rentre en
en
jeu,
ligne de
ouais.
compte. Voilà. Et puis parallèlement, il y a tout un travail qui s'est fait sur les costumes aussi, puisque, si vous voulez, l'opéra est une chose paradoxale, puisque on travaille souvent sur du répertoire a priori passé, mais qui est vivant, parce que l'intérêt de l'opéra, c'est le croisement qu'il y a justement entre ce répertoire passé et puis la vision vivante qu'a un metteur en scène, une équipe et des chanteurs qui sont tous de notre époque, par définition. C'est-à-dire, c'est vraiment. Et donc, cette question-là, après, rejoint un questionnement plus général, qu'est le questionnement de tout artiste sur la société dans laquelle il vit, sur les grandes questions qui peuvent être des grandes questions de sentiment, comme dans
Ouais.
Così fan tutte, mais qui peuvent être aussi des grandes questions sociales, comme dans votre sec, ou enfin voilà, ou historique. Tout est questionnable à l'opéra.
Alors moi je suis très content de vous avoir avec nous ce soir puisque ça nous permet également d'en sortir, d'ouvrir un petit peu le champ de vision parce que bon en ce moment c'est une période vraiment de rentrée pour beaucoup de salles donc on a reçu les gens du Temps Machine notamment, du Petit Faucheux et donc l'Opéra Tour ce soir et donc vous le savez on est une radio qui s'adresse principalement on va dire à un public étudiant, est-ce que c'est un public que vous avez l'habitude de rencontrer au théâtre?
Oui, c'est un public qui vient au théâtre. Le seul problème qu'on avait il y a quelques années, je pense, c'était un problème d'accès. C'est-à-dire, pas tant le prix des places d'ailleurs, mais que la possibilité, parce que, bon, j'ai été étudiant naturellement et je me mets facilement dans cette peau-là, c'est pas
Ouais.
si loin. Et donc le problème des étudiants est souvent que c'est difficile de planifier quelque chose très très à l'avance. Donc il a fallu adapter notre tarification aussi
Ouais. Oui, tarif réduit, bien sûr.
pour voilà. Et puis il y a un tarif spécial, moins de 28 ans, qui permet d'arriver dans la demi-heure qui précède le spectacle. Et
Ouais.
dans la demi-heure qui précède le spectacle, on lâche toutes les places à 7 euros.
En fonction de des places
Tout ce
disponibles, bien
qui
sûr,
reste,
mais ouais.
voilà. Et ça peut être quelquefois des très bonnes places, puisqu'il y a toujours
Absolument.
des gens qui disent au dernier moment, je pourrais pas venir, ou changez-moi de jour, etc. Bon, et donc, on a la possibilité, sur ces très bonnes places, d'en faire profiter. Donc, on a fait le choix d'en faire profiter, en fait, ces étudiants qui arrivent au dernier moment. Et on a donc une grosse clientèle, comme ça,
Ouais.
de jeunes qui viennent. Donc, on s'est, pour une part, adapté. Et puis, pour une autre part, c'est assez facile parce que c'est d'une banalité confondante de le dire, mais l'âge étudiant est un âge où on triche pas. Et le spectacle d'opéra est un spectacle qui ne triche pas parce que ce qu'on entend, c'est les vraies voix. Il n'y a pas de truchement,
Oui,
comme on dit. Il n'y a pas de
oui.
micro, il n'y a pas d'amplification, il n'y a pas de travail en post-production, comme on fait en variété. La musique est pareille, c'est-à-dire que la note que vous entendez dans la salle est vraiment celle qui sort de l'instrument et il n'y a pas non plus d'échappatoire. Donc il y a ce côté absolument authentique, absolument. Enfin voilà, on dépose sa peau sur la table, comme disait
Ouais.
Céline pour la littérature, mais on fait. Il n'y a pas d'autre solution que de le faire.
Y a
Et
pas un
donc.
droit à l'erreur quelque part.
Oui, enfin, droit à l'erreur, attention, enfin, c'est pas une opération à cœur ouvert non plus, mais je veux dire, il n'y a pas de faux semblant à l'opéra par définition. Et donc, il suffit forcément d'avoir assisté à un spectacle d'opéra pour vraiment 95 fois sur 100, disons, pour être absolument en état de choc
Ouais.
et pour n'avoir qu'une envie, c'est d'y revenir. Donc une fois que le premier pas est fait, bon, la partie pour nous est gagnée.
Et gagné, ouais. Alors, parlons maintenant un petit peu de la programmation à venir. Quels sont alors les opéras en particulier, parce qu'il y a, on va y revenir, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Opéra de Tours.
Oui.
Mais donc, les productions d'opéra cette année.
Alors, les productions d'opéra, on essaye toujours de mélanger entre ce qu'on appelle le grand répertoire, alors qui est souvent le répertoire que les gens connaissent le mieux ou le moins mal, c'est-à-dire le répertoire accessible assez facilement. Donc le Mozart, par exemple, pour
Oui.
commencer avec Così fan tutte, mais qui est un opéra extrêmement profond, comme on aura sûrement l'occasion d'y revenir, et Traviata en fin de saison, qui est aussi un opéra extrêmement profond. Traviata, c'est au mois de mai.
C'est l'opéra de clôture un
C'est
peu, c'est
l'opéra
le
de
dernier,
clôture,
oui.
voilà. Donc c'est quatre représentations à partir, disons, de la mi-mai. Et puis des titres, bon, un titre aussi très connu pour les fêtes, qui est La Chauve-souris de Johann Strauss,
Ouais.
qui est un peu le prototype de l'opérette viennoise intelligente, on pourrait dire. Et puis tout autour, naturellement, trois projets qui sont des œuvres moins connues. Deux œuvres du répertoire français, Les Caprices de Marianne d'après Musset de Sauguet, donc ça c'est une vraie rareté.
Ouais.
La Voix humaine de Poulenc qui est couplée à L'heure espagnole de Ravel, qui est un des deux petits opéras, disons, La Voix humaine étant un monodrame extrêmement dramatique, une histoire de rupture au téléphone. Et L'heure espagnole étant une pochade, disons, très drôle, et qui en même temps pose deux, trois questions intéressantes, en particulier sur la condition féminine. Et puis, la troisième proposition, disons, c'est le triptyque de Puccini. Alors ça, c'est une rareté aussi. C'est trois ouvrages absolument fantastiques que Puccini, donc le grand musicien de Tosca, de Butterfly, voilà, qu'on connaît bien, a fait pendant la fin de la Première Guerre mondiale. Ça a été créé en 1918, mais ça a été créé aux États-Unis. Et ce sont comme trois nouvelles, vraiment de très haut niveau. Une nouvelle qui se passe dans un milieu, disons, à la Zola, qui se passe carrément sur une péniche
Ouais.
qui est à Paris. Une deuxième, Sœur Angélique, qui se passe dans un couvent, où une jeune sœur qui est entrée dans ce couvent, on vient lui apprendre que son enfant, qui est en fait la raison de sa rentrée au couvent, puisqu'elle l'a eue toute seule, si on peut dire.
Ouais.
Son enfant est mort, donc c'est une espèce ça se termine en déploration absolument extraordinaire. Et puis le troisième, c'est une histoire de captation d'héritage très très drôle, où Gianni Schicchi, donc c'est le rôle titre, se fait passer pour un mort qui ne serait pas encore mort, de manière à changer tout l'héritage et à s'auto-attribuer naturellement absolument tout dans l'héritage. Donc c'est trois ouvrages, chacun de 50 minutes, qui sont très contrastés et qui sont vraiment extraordinaires, vraiment, vraiment très, très bien. Donc c'est à chaque fois des invitations à passer des soirées
Ouais.
inattendues et quelquefois attendues comme Traviata, comme Così, et en même temps, voilà, de poser des questions aussi sur soi-même, enfin.
Ouais. Et alors, c'est vraiment une volonté, vous le disiez, donc de varier des artistes qu'on pourrait dire, des compositeurs en tout cas, qui touchent un large public comme Mozart, mais c'est également aussi, c'est un peu ce que vous disiez, de varier des registres notamment.
Oui, c'est-à-dire que l'opéra est une chose qui permet à la fois de se questionner soi-même au plus profond de soi, parce que, par exemple, Così fan tutte tourne uniquement autour du sentiment amoureux. Alors quand on regarde par exemple la surface, on se dit, oh, c'est une histoire qui paraît bien légère,
Ouais.
mais en fait, dessous, ce qui est dit dans le détail du texte qu'on peut suivre d'ailleurs pas à pas, puisque maintenant
Oui.
tous les opéras sont surtitrés,
Surtitré, bien
donc
sûr.
même il n'y a pas vraiment de barrière de la langue du coup. Donc on peut aussi y réfléchir après, on
Ouais.
peut aussi réécouter, on peut s'y écouter avant. Enfin, et à chaque fois, on a la certitude de plonger dans un chef-d'œuvre, quoi. Donc, la définition du chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui vous rend, disons, plus intelligent après qu'avant, quoi. C'est-à-dire que quand on est confronté à la beauté, qu'il s'agisse d'un tableau, d'un morceau de musique, d'un paysage dans une certaine mesure, enfin voilà,
Une
c'est des
introspection un
chocs
peu, ouais.
esthétiques qui vous renvoient à vous-même.
Alors, pas que des opéras, à l'opéra, il y a également des concerts,
Oui.
et il y a également des spectacles complètement différents. Il y a des spectacles d'humoristes, par exemple, aussi.
Oui, alors ça c'était une des volontés. Bon, les concerts c'est une chose, on en parlera après, mais les spectacles d'humoristes, c'est donc en collaboration avec Cheyenne Productions et c'était aussi une volonté d'ouvrir la salle à du public qui ne la fréquente pas en particulier, toute une frange de public jeune qui est très intéressée, comme moi d'ailleurs, par la jeune génération des humoristes, puisqu'on sait que dans diverses écuries, y a différentes écoles comme ça, en particulier une école d'humoristes féminines, moi que je trouve extraordinaire, fantastique, et puis naturellement tous les gens autour de Jamel par exemple, autour de... Bon, et donc ça permet à ces artistes de se confronter à un vrai théâtre parce que souvent ils sont dans des salles modernes dans lesquelles le public, disons, est en vision frontale, un peu comme le Vinci par exemple. Où le rapport au public est moins extraordinaire qu'un théâtre à
Bien
l'italienne.
sûr, oui.
Donc ils sont très contents de ça, et puis ça permet, nous, d'accueillir du public qui ne vient pas spontanément à l'opéra en se disant, maintenant ils connaissent le lieu,
Vous pensez qu'il y a
en
une
général...
appréhension un peu de ce public, de la part de ce public?
Non, mais je crois que c'est plus une... Vous savez, les habitudes culturelles, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en direction du jeune public, les habitudes culturelles ont la vie dure, donc les gens trouvent que c'est pas pour eux, et sont des fois, peuvent avoir été des fois refroidis par un premier contact pas adapté. Moi, je veux dire, c'est dire si je suis vieux, je me souviens d'un concert à la salle Télème, je suis un Tourangeau d'origine. Et donc, quand j'étais étudiant, et c'était il y a... enfin bon, j'ose même pas dire. Mais je me rappelle très bien, parce qu'on sortait avec des copains, on venait d'aller faire du militantisme, de coller des affiches, pour tout dire. C'était une campagne de je sais pas quoi. Et puis, il y avait un de nos copains qui était très amateur du groupe Bijou à l'époque. Ça vous dit rien, le groupe Bijou, mais
Non.
c'était des durs, enfin bon. Et alors il y avait un concert à Thelem, et donc un niveau sonore, enfin pire qu'un Boeing au décollage tout le temps quoi. Donc j'en suis sorti avec des bourdonnements d'oreilles, des sifflements, des acouphènes pendant une bonne dizaine de jours. Et je me suis dit, c'est pas pour toi, tu remettras pas les pieds. Voilà. Bon, après, je suis retourné à d'autres choses, et puis en prenant deux, trois précautions, j'y suis arrivé. Mais donc, c'est tout ça pour dire que le premier contact a une grosse importance. Et le premier contact avec un bâtiment très daté, parce que c'est un
Bah oui,
bâtiment
c'est un bâtiment
historique, hein,
historique
on n'a
classé,
pas
ouais.
sans... c'est un merveilleux bâtiment historique, on n'a pas
Classé depuis 2000,
sans.
je crois.
Oui, je ne me
Ouais,
rappelle plus.
oui.
Enfin, non, c'est classé avant. Enfin,
Avant.
il y a une partie classée, une partie inscrite.
D'accord.
C'est les subtilités des bâtiments de France. Et donc, depuis, oui, dans ce bâtiment historique, naturellement, on y voit moins spontanément quand on est jeune qu'au studio ou à la limite au temps machine, bien sûr. Donc, c'est une manière aussi de faire rentrer des gens, faire profiter tout le monde de ce bâtiment merveilleux.
Alors justement, on parle d'amener un public. Il y a également des spectacles jeunes publics.
Oui, alors, c'est-à-dire que ça, toute la politique de l'établissement, mais depuis des années, c'est en fait d'avoir des offres qui commencent très très tôt. Donc, en effet, les enfants, dans le cadre scolaire, peuvent venir assister à des
Des
spectacles jeunes
répétitions
publics
également.
et à des répétitions. Alors, des spectacles jeunes publics, c'est 4 fois par an des spectacles qui leur sont dédiés. Donc, on en fait à chaque fois 4. On réduit légèrement la jauge pour des histoires de sécurité parce qu'il n'est pas recommandé de mettre un gamin à une certaine hauteur du sol. Bon. Et donc, ça commence aux moyennes sections de maternelle pour certains spectacles. Donc, c'est grosso modo l'âge primaire. Et puis, dans cette saison-là, est inclus aussi une chose qu'on appelle concert pour les petites oreilles, qui est un concert commenté court, de 3 quarts d'heure, disons, avec des exemples, avec des histoires, et pour lequel ils ont été aussi préparés en amont par un travail d'intervention en classe qui est très, très professionnel, très ludique. Et donc, les enfants arrivent, non dans l'attitude d'assister passivement à quelque chose, mais aussi de pouvoir échanger avec les musiciens, parce qu'ils vont reconnaître un thème. Parce qu'ils vont, voilà. Donc ça, c'est un travail qui est fait par la musicienne intervenante Julie Boudsocq, qui est attachée spécifiquement à l'orchestre.
D'accord.
On fait aussi ce travail-là en région. Et puis, il y a nos opérations en direction des collégiens lycéens. Donc, ça s'appelle Vive à l'Opéra. Donc, ça, c'est un travail suivi aussi en classe. Et puis, donc, sur le lieu, dans le théâtre, à partir de projets qui nous sont présentés par des équipes pluridisciplinaires d'enseignants. Donc, un prof de musique se met avec un prof de littérature, un prof de géo, d'art plastique, que sais-je. Puis trouve différents angles pour aborder une œuvre. Et les collégiens et lycéens qui font cette opération, donc il y a en principe entre 15 et 20 groupes par an, ont aussi l'entrée. Ils viennent assister à des répétitions de l'ouvrage qu'ils ont
Oui,
vraiment étudié.
étudier, oui.
Et en même temps, ils ont la libre entrée pour toutes les autres générales de la saison. Donc, quelqu'un qui fait ça 2 ans, par exemple, a vu une dizaine de titres.
Ouais.
Et donc, la stratégie là-dedans, c'est de dire, de dédramatiser et que l'opéra devienne un spectacle comme un autre, avec bien sûr un côté un peu privilégié, parce que c'est un spectacle très extraordinaire. Moi, je trouve ça toujours un peu magique, comme un spectacle de danse. C'est-à-dire,
Ouais.
on va voir vraiment des artistes et on ne se contente pas de venir voir un film ou voilà, c'est quelque chose de. C'est du vrai live,
Voilà, on est
quoi.
un peu actif
Du
aussi en tant que
live de
spectateur.
live.
Ouais.
Oui, parce que on se rend compte, quand on est aussi soi-même musicien, que, par exemple, ou chanteur, qu'un spectacle ne se duplique jamais avec un autre. C'est-à-dire, d'une soirée à l'autre, le spectacle n'est pas tout à fait le même.
Oui, dans un même spectacle, là, on parle bien sûr.
Ouais, oui,
Ouais.
c'est-à-dire, on sait déjà que ça va pas être tout à fait le même parce que le public réagit pas tout à fait de la même
Ouais.
manière, parce que l'atmosphère est très différente. Enfin, les Allemands ont un merveilleux mot pour ça, c'est des Stimmung. Des Stimmung, dans
Ouais.
Stimmung, il y a Stimme qui veut dire voix aussi. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est cette espèce d'atmosphère, d'ambiance, c'est un mélange comme ça assez intraduisible finalement, c'est-à-dire
Ouais.
bon, et naturellement ça marche pas à tous les coups, et naturellement il peut y avoir aussi le grand soir, quoi. et
Oui.
puis et puis dans une salle, on va tous recevoir la même chose ensemble, et en même temps chacun va le recevoir de manière diversifiée, différente. Et ça, c'est la grande utopie de
Et
l'opéra.
ça, c'est quelque chose qu'on sent quand on est chef d'orchestre. On arrive à avoir des yeux partout, ou plutôt des oreilles partout, pendant un spectacle.
Ben, je pense que la concentration du public, le feedback, disons, c'est presque des ondes, faute de meilleurs termes,
Ouais.
qu'on ressent quand la salle est pleine et qu'il y a une espèce d'atmosphère d'écoute qui petit à petit s'installe et qui est des fois d'une intensité presque insupportable. Oui, bien sûr, on le ressent très fort. Il y a des œuvres même qui se terminent dans cette espèce de silence. Enfin, des œuvres comme la Symphonie Pathétique qu'on va jouer par exemple au mois de novembre, qui se terminent à la frontière. En principe, souvent, c'est des œuvres où il est question de mort, par exemple, où il y a une
Ouais.
espèce de métaphore à la fin d'une extinction, ou la Neuvième de Mahler, le Requiem de Verdi, toutes ces œuvres-là. Et la musique se prolonge après dans du silence, qui est une sorte de super musique. C'est-à-dire, c'est très étonnant à notre époque d'avoir cette qualité-là, puisqu'en général, même à la radio, quand il y a 4 ou 5 secondes de silence sur les
Ouais.
radios généralistes nationales, il y a un système spécial qui fait qu'on envoie de la
Ouais.
musique, quoi. C'est-à-dire que les gens ont une peur
Ouais, une peur
épouvantable
du
du
vide, un
silence.
peu,
Oui,
ouais.
une peur épouvantable du silence. Et donc, ça permet de se confronter à des émotions comme ça, qui sont rares.
Alors, un événement important qui arrive très bientôt sont les journées portes ouvertes, donc le 4
Oui.
octobre. Qu'est-ce qu'on pourra y voir dans ces journées portes ouvertes?
Alors ça, les journées portes ouvertes, c'est une sorte ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire le matin, on peut visiter absolument tout le bâtiment, mais en même temps, c'est pour nous, à l'intérieur, une journée de travail
Ouais.
presque comme les autres, puisque en plus on accueille le public. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, l'orchestre répète aussi dans la fosse. Parallèlement, on peut visiter le bâtiment. Donc, les techniciens sont là pour le public, pour vous, et donc ils vont vous expliquer. Ils sont répartis dans le bâtiment, ils expliquent la
Ouais.
scène. On peut passer dans les coulisses, on peut passer dans les ateliers, On peut aller du sol au plafond, voilà, le stock de costumes, quelquefois, et donc on peut voir l'envers du décor, bien sûr, enfin tout ce que, et puis le bâtiment lui-même.
Justement,
Et là aussi, il y a des ateliers aussi pour les enfants, soit destinés à des choses plus musicales, hein, ça peut être des ateliers musicaux, soit des ateliers qui sont en liaison avec une visite du bâtiment, des espèces de courses au trésor, des trucs rigolos comme ça. Et puis l'après-midi, on peut assister à une répétition de mise en scène. Donc costumé, puisque c'est un peu les dernières répétitions pour le spectacle, donc une mise en scène. Je sais que vous avez participé à ça, du
Oui,
coup, hein.
j'ai fait de la figuration, oui
Oui,
déjà.
oui. Et donc c'est une répétition costumée, accompagnée par le piano. Et puis le soir, on voit une autre partie de l'ouvrage, qui est en général le début, toute la première partie, et puis on va aussi loin que possible, qui est la première répétition, en fait, avec tout le monde, c'est-à-dire l'orchestre qui a répété de son côté, et puis les chanteurs, les chœurs, voilà, toute la technique, déjà une première idée de ce que seront les éclairages définitifs. Donc et tout ça, naturellement, est totalement gratuit. À entrée libre, ça veut dire qu'on peut entrer et sortir, ce qui est très très bien pour, par exemple, les enfants, puisque un enfant de 5 ans
À une patience un peu
va trouver
limitée,
ça, ben, bien sûr, des capacités d'attention
oui.
conformes à son âge. Donc un enfant de 5 ans, ça va être un excellent souvenir si on lui fait passer 20 minutes dans la salle, 20 minutes à faire un parcours de... voilà, et puis que finalement il va passer la moitié de sa journée au théâtre. Mais si on l'installe dans un fauteuil en lui disant, bon, tu bouges pas, tu fais silence, et puis tu t'en as pour 3 heures, je veux dire, c'est pour un enfant, ça va être le
Ça va
pire
être,
souvenir de
voilà,
sa
c'est
vie.
ça.
Voilà. Donc, on préfère ces journées-là. Il y en a deux par an. Donc, en principe, sur le spectacle d'ouverture et puis sur le spectacle de clôture de saison. Donc, ça, ce sera après au mois de
Au
mai.
mois de mai, oui.
Et ça, c'est très, très important. Et puis donc on a étendu ça à l'orchestre maintenant, c'est-à-dire on
D'accord,
fait
ouais.
une opération en direction des jeunes, Viva l'Orchestra, donc sur le
Ouais.
même principe avec des projets, etc., les classes, et puis carrément des répétitions ouvertes qui sont commentées ou vaguement commentées, mais qui permettent de mettre en contact aussi le travail artistique en train de se faire.
L'intérêt de ces journées portes ouvertes, c'est non seulement de rencontrer l'opéra si on ne l'a pas encore rencontré, mais surtout de le voir en activité en fait.
Oui, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été surpris, mais c'est bien normal, de la méconnaissance. Mais ça, c'est la faute aussi de la profession. C'est-à-dire pendant des années, on a sanctifié, on a sanctuarisé notre
Ouais.
travail en disant attention, c'est du travail artistique, pas touche, il faut qu'on reste entre nous, etc. Bien sûr, il faut qu'on reste entre nous pendant une grande part du travail, comme n'importe quel artisan qui fait quelque chose, puisque c'est des métiers, tout ça, très artisanaux. Mais en même temps, ça a un certain intérêt pour tout le monde de le montrer, y compris pour nous, parce que ça nous permet d'être en phase, d'être questionnés, voilà. J'étais surpris il y a quelques années des questions, naturellement, que le public qui ne savait pas pouvait poser. C'est-à-dire, quand est-ce que les artistes arrivent? Est-ce que vous allez aller ailleurs après le spectacle?
Ouais, des questions qui peuvent
Qu'est-ce que...
paraître anecdotiques, mais
Oui, mais
ouais.
ce qui montre que y a une demande
À l'intérêt, ouais,
un
du public,
intérêt,
ouais.
oui, pour savoir comment on fait les choses. Je veux dire, tout le monde sait que un disque de variété se produit avec un musicien qui, comme on dit, rentre en studio et puis il tâtonne. Et puis des fois, ça se passe. On passe 3 semaines en studio, un mois en studio, à raison de 8 heures par jour ou par nuit, plus exactement, souvent, à essayer de trouver le bon son, le bon truc, etc. Et ce morceau par morceau et tout ça. Donc tout le monde sait qu'un album, un CD, se produit. Ça, voilà, ça demande un certain nombre d'heures de travail. Et il y avait pas ça pour le spectacle d'opéra. C'était resté très. On fait ça entre nous, et puis
Cloisonné un peu,
voilà. Et puis
ouais.
quand le chef-d'œuvre est prêt, on vous le présente bande de manants, quoi. Et moi, je trouve que c'est. Et puis en plus, bon, on est une époque où tout le monde adore être dans le cockpit. Je veux dire, voilà. On aime bien tout. Et puis les gens sont devenus de plus en plus curieux. Il y a même des applications sur les iPhones qui vous permettent, quand vous voyez un avion qui passe dans l'air, de savoir comme ça, mais par pure curiosité. Ça n'a aucun autre intérêt que la curiosité, de savoir d'où il vient, où il va, à quelle heure il a décollé, à quelle heure il atterrit. Enfin bon, c'est des choses comme ça qui n'étaient pas du tout accessibles il y a
Et
quelques
ça fait
années.
partie, ouais, d'un processus un peu de démocratisation
Oui,
de
bah,
cet art.
c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte au fait que bon, sans exagérer, mais que le monde est une espèce d'open space comme ça, où chacun amène un petit peu sa vie, son truc. Après, mais c'est pour ça que toutes les maisons d'opéra maintenant ont des pages Facebook, sont abonnées à Twitter, et voilà. Et j'ai de nombreux collègues dans le métier, dans les chanteurs, etc., qui sont des citoyens contemporains.
Alors justement, donc vous êtes à la tête de l'Opéra de Tours depuis 1999. Donc vous avez certainement vu toute cette évolution se
Oui,
faire.
oui, oui.
Quel sentiment vous avez vous êtes optimiste?
Ben, moi, je suis un pessimiste actif, donc je suis donc optimiste finalement. Non, ça fait. Moi, depuis que j'ai commencé mon activité professionnelle, j'ai entendu déjà 3-4 fois annoncer la mort de l'opéra. Donc, si vous voulez, ça me. Bon, voilà. Ça me.
Ça vous fait plus d'effet.
Ouais, ça m'émeut de moins en moins, disons. Non, je crois. Bon, bien sûr, il y a des problèmes économiques, mais qui sont les problèmes économiques de tous les secteurs à l'heure actuelle. Il y a un vrai problème de financement public de la culture. Bien sûr que un opéra, c'est d'abord des heures de travail, c'est d'abord de la main-d'œuvre.
Bien sûr.
C'est vrai que ça a été le genre opéra a été conçu à une époque où tous ceux qui faisaient l'opéra, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait appeler les petites mains du spectacle, qu'il s'agisse des techniciens, des musiciens, etc., étaient très mal rétribués, voire pas rétribués du tout. Donc, on était dans un modèle économique qui rendait les choses vivables, puisqu'on payait les superstars. Alors là, eux, ils ont toujours eu des cachets stratosphériques. Et puis, la valetaille dessous, peu importait. Après, ce sont devenus des spectacles plus artistiques, plus développés, où donc maintenant, à cause aussi de l'enregistrement, du film, tout ça, il faut aussi que ce qui se passe dans la fosse soit à hauteur de ce qui se passe sur le plateau. Enfin, il y a une exigence de qualité
Bien
générale
sûr.
qui s'est énormément accrue depuis, disons, 25 ans. Un peu plus même, depuis, disons, la Deuxième Guerre mondiale, et petit à petit, et donc ça demande des gens extrêmement qualifiés partout, et que les musiciens dans la fosse soient extrêmement talentueux, et que voilà, et pour le plus grand bien du niveau des spectacles présentés. On n'en croirait pas ses oreilles, quand je pense que si on revoyait quelque chose qui était présenté il y a 40 ans. Donc, voilà, tout ça est une bonne évolution, et il faut pas du tout en avoir peur. Alors moi, ce qui me gêne dans l'époque après, c'est justement ce zapping permanent qui fait que
L'attention est très vite portée sur autre chose.
l'attention peut être assez flottante dans le public. Le temps qu'il faut passer pour approcher une œuvre, pour être en sympathie avec une œuvre, est des fois extrêmement réduit, trop réduit, y compris chez les artistes d'ailleurs, puisqu'il y a tellement de choses. Le paradoxe, c'est qu'il y a tellement de choses, donc on pourrait se dire c'est plus facile d'accès. Mais le fait que ce soit plus facile d'accès entraîne des fois, voilà. Alors ça, je n'aime pas ça dans l'époque, mais d'une manière générale, cette espèce de superficialité à laquelle tout le monde est
Et ça ne
contraint.
touche pas que l'opéra, oui, justement.
Oui, à laquelle
Le
tout le monde est.
théâtre,
Voilà, à
ouais, bien
laquelle tout
sûr.
le monde est contraint. Donc je pense qu'en effet, il faut. Là, par contre, contre ça, il faut se battre. Je pense que. La jeune génération aussi, le monde étudiant, puisque c'est extrêmement important d'en avoir conscience, parce que le problème, c'est ça. C'est-à-dire, une fois qu'on est conscient de ses propres manques, même individuels, on peut travailler à se perfectionner, à les combler. Le problème, c'est que c'est une époque encore un tout petit peu inconsciente, collectivement, à ce niveau-là.
D'où l'intérêt, je vais pas dire d'éduquer, mais d'avoir ce jeune public et ses scolaires dès le plus jeune âge, en fait.
Ben, éducation est un bon mot, hein. C'est-à-dire que l'éducation artistique, c'est une éducation à la citoyenneté, c'est une éducation au vivre ensemble, c'est une éducation. Non, je trouve que c'est un très beau mot. Il faut pas avoir peur de l'employer. Puis c'est un appel à l'intelligence aussi. On vous éduque pas quand on vous balance des objurgations comme ça, ou quand on vous. Enfin, moi, je suis atterré par le niveau des télévisions d'information continue. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Parce que on monte un truc, on bâtit du rien sur du rien, parce qu'il faut bien tenir l'antenne, on va pas lancer un film, c'est pas le principe. Donc on est capable de raconter en boucle la même approximation, le même bobard, le transformer en vérité, voilà, avec une espèce de. de complicité avec des soi-disant spécialistes qui viennent raconter
Ouais.
n'importe quoi, y compris être raconter en direct qu'ils ne savent rien. Enfin, je veux dire, c'est des choses
Ouais.
dont on se rend même plus compte
Bon, dans une
de...
culture un peu du scandale et de l'événement aussi, de toujours du plus exceptionnel.
Oui, et puis c'est surtout qu'on on pose pas les vrais enjeux, on
Ouais.
pose pas les vrais problèmes. Et puis quand on veut disserter sur la vérité des sentiments amoureux, non, il y a plus dans Così fan tutte, il y a 4 fois plus que dans n'importe quel bouquin à scandale qui sort, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors justement, Cosy fan
Oui.
tutte, on y vient. Je vous propose juste avant ça qu'on écoute un extrait et qu'on en parle juste après.
Alors on écoute hein, le bout du le début du dénouement, voilà, le début du final
Le début du final.
du final final.
Et bah, on se retrouve tout de suite après cet extrait, Jean-Yves Ossons. Vous êtes de retour dans Sortez en compagnie de Jean-Yves Ossons, le directeur et le chef d'orchestre de l'Opéra de Tours. Moi, je vous propose qu'on parle maintenant un petit peu plus en détail de Così fan
Oui.
tutte, la première production, donc Mozart, on l'a dit.
Alors d'abord, Così fan tutte, l'histoire est attachante. Così fan tutte en italien, ça veut dire ainsi font-elles toutes. Alors l'histoire, grosso modo, c'est un philosophe qui est avec deux types. Alors on pourrait dire c'est des étudiants ou c'est un peu cet âge-là, qui sont persuadés qu'ils vont se marier et qui sont persuadés que vraiment leurs deux fiancés sont des créatures exceptionnelles,
Ouais,
fantastiques, etc.
histoire sentimentale, hein, on disait.
Voilà. Et donc chacun fait l'éloge. Et puis le philosophe va leur proposer quelque chose, va leur proposer de dire que, enfin, de se rendre compte de ce qu'est la vraie vie, grosso modo. C'est
Ouais.
un peu une initiation. Et donc en fait, les deux vont revenir un petit moment après. Ils vont faire semblant de partir à la guerre. Et ils vont venir quelques moments après costumés, donc ce premier artifice
Ouais.
théâtral, donc costumés, donc non reconnus par leurs fiancées respectives. Et puis ils vont échanger les fiancées. Là, il y a déjà quelque chose de très 18e siècle.
Ouais.
Ils vont échanger les fiancées. Le challenge va être de draguer chacun la fiancée de l'autre. Et naturellement, avec diverses plongées dans à la fois des situations bouffonnes, mais aussi des plongées très très profondes dans le sentiment amoureux, dans la vérité du sentiment amoureux. Donc c'est un petit peu difficile de parler de ça en 40 secondes parce que c'est très
C'est
subtil
vrai que c'est un thème
et
récurrent,
ça se et
ça.
ça se développe dans des ensembles, dans des airs, etc. Et grâce au texte qu'on peut d'ailleurs trouver quand on veut sur Internet, hein,
Ouais.
on tape Così fan tutte et on va regarder vraiment le détail du texte qui est magnifique. Et bien Mozart, petit à petit, écrit sa plus belle musique puisqu'on se rend compte que non seulement ça va marcher, mais qu'en plus les couples nouveaux, c'est-à-dire les couples faux,
Ouais.
Vont devenir les vrais
Les vrais
au niveau
couples.
du sentiment. Et là où la fin est amère, c'est qu'au moment où donc il faut dénouer tout ça, qui est le début de ce qu'on vient d'entendre là, c'est-à-dire le final final.
Est-ce qu'on entend toujours en fond, bien sûr.
Voilà. Tout d'un coup, il va y avoir donc un faux mariage enfin un vrai mariage pour les intervenantes féminines.
Ouais.
Et un faux mariage naturellement pour tout le reste hein, qui sont dans la confidence. Et puis ils vont mimer une sorte de retour des soldats, donc les types vont revenir et à ce moment-là découvrir qu'il y a eu un mariage, etc. Confondre leur, enfin bon bref. Et la conclusion où tout le monde pardonne à tout le monde est amère puisque chacun reprend son partenaire d'origine,
ouais.
tout en sachant que la vraie histoire, les vrais sentiments, ce aussi que le public a entendu, sont ailleurs.
Oui.
Et ça, je veux dire, c'est à la fois d'une cruauté et d'une vérité. Quiconque,
ouais.
voilà, quiconque a ne serait-ce assisté au mariage d'une ex, je veux dire, ne peut pas ne pas connaître ce sentiment-là. C'est-à-dire le sentiment que peut-être on a raté quelque chose, que peut-être la vie aurait pu prendre un tour différent, et voilà. Donc c'est à ce moment-là où l'opéra, par tout cette espèce d'artifice qui est le chant lyrique, la musique qui accompagne, les situations théâtrales, les costumes, que sais-je, touche au plus près de la vérité du sentiment. Voilà. Et c'est ça l'opéra. Comme dans Rigoletto, auquel vous avez participé, c'est la vérité aussi du sentiment paternel, et puis aussi de la tromperie amoureuse, parce qu'il y a ça aussi dans Rigoletto.
J'ai dit, ouais.
Enfin, voilà. Et c'est à ça que sert l'opéra, c'est-à-dire à questionner génération après génération. Vous savez qu'il a fallu beaucoup de temps, par exemple, pour que le livret, c'est-à-dire le texte de Così fan tutte, soit accepté, soit compris dans toutes ces conséquences, parce qu'on jugeait que le livret justement était immoral.
Un problème récurrent d'ailleurs chez
même,
Mozart, parce qu'il y avait
même
le...
Beethoven, voilà, même Beethoven, il disait que Così fan tutte était un livret immoral. Et encore récemment, moi, quand j'ai fait mes études universitaires, on disait que c'était dommage que Mozart ait écrit cette belle musique, mais que sur un livret aussi inepte. Bon, donc on avait rien compris. C'était encore une époque où, vous voyez, c'est récent quand même, où toute l'amertume qu'il y a dans Così fan tutte, cette espèce d'amertume joyeuse qui fait que au fur et à mesure, on va avancer dans sa vie en étant de plus en plus, pas désabusé, mais de plus en plus indulgent aussi par rapport aux situations, par rapport aux autres, par rapport à l'amour, aux ruptures, aux tromperies, à machin, enfin, tout ce qui fait la vie de n'importe qui, finalement. Et donc ces deux-là, le sous-titre de Mozart et de l'abbé d'Aponte qui a fait ce livret, c'était l'école des amants.
Oui.
Et on peut dire aussi que c'est l'école des amants au sens large, c'est-à-dire l'école des amantes aussi, parce que les filles ont appris beaucoup aussi sur leurs sentiments, sur cette espèce de miroir aux alouettes de l'amour toujours, et etc., etc., quoi.
Alors, c'est également pour vous l'occasion avec Così fan tutte de collaborer une nouvelle fois avec Gilles Bouillon, qui a été directeur de CDRT jusqu'à il y a peu de temps. Comment se passe ce type de collaboration ?
Écoutez, avec Gilles, ça s'est toujours passé extrêmement bien, parce que c'est un personnage d'abord. Il a une vitalité extraordinaire, une manière de diriger les chanteurs absolument admirable. C'est-à-dire que... il est toujours extrêmement exigeant, tout en étant extrêmement positif, jamais en surplomb, toujours dans l'action. On travaille toujours dans une ambiance très, très, très formidable. Et puis surtout, il s'est énormément apporté à la fois aux chanteurs très expérimentés, qui ont beaucoup d'expérience antérieure, y compris sur certains rôles, et puis en même temps savoir porter au plus haut un jeune chanteur inexpérimenté, en lui apprenant vraiment des choses qui vont lui servir pendant toute sa vie. Et donc dans le petit milieu des chanteurs, vous savez que son travail ici est extrêmement extrêmement réputé. C'est-à-dire que moi, j'entends plein de chanteurs qui disent « Ah tiens, tu vas à Tours, tu vas travailler avec Bouillon, tu vas voir. » Enfin, voilà. Bon, et puis, ça a donné tout au long des années, puisque c'est une collaboration au long cours maintenant. On a travaillé assez systématiquement toutes les saisons ensemble. Ça a donné des spectacles formidables. Et puis c'est aussi, voilà, on a cheminé, disons, parallèlement. Ouais. Donc c'est une chose extrêmement gratifiante.
On va rappeler, donc avant de se quitter, parce qu'on arrive au terme de cette
Bien
émission,
sûr.
les principales dates à venir à l'Opéra de Tours. Donc on le disait, Così fan tutte, d'abord en
Voilà.
ouverture.
Donc, porte ouverte tout le
Porte ouverte, bien
samedi
sûr, oui.
4 octobre. Si on veut voir d'ailleurs Gilles travailler en direct, c'est le moment. Donc,
Et ça vaut le coup d'œil.
samedi 4, oui, samedi 4 octobre, donc entre 8h30 du matin et 22h, avec une petite interruption simplement pendant l'heure de midi.
Ouais.
Et puis, avec aussi un atelier, par exemple, où le chef de chœur vous initiera au chant de chœur lyrique. Enfin bon, il y a plein de choses dans ces journées. Il faut aller sur le site, le
De
programme
l'opéra,
détaillé va
ouais.
y être, hein, www.opéradetours.fr, ou s'abonner aussi, enfin aller voir sur la page Facebook, aller sur le compte Twitter, enfin tout ce genre d'ingrédients contemporains. Les trois spectacles de Cosy, donc c'est 10, 12 et 14.
Oui,
La
un tous les
location
deux
est
jours.
ouverte, voilà, la
Ouais.
location est ouverte. On peut là aussi louer toutes les places sur Internet maintenant, ce qui est extrêmement précieux, parce que très rapide. On n'a même plus besoin de se déplacer physiquement, je veux dire, dans le
Ouais.
lieu. C'est quand même, voilà, et puis on peut louer à 2h du matin, donc, enfin
Ouais.
voilà, Internet quoi. Et puis le premier concert de la saison symphonique, avec les quelques jours qui précèdent Viva l'Orchestra, c'est à la mi-novembre, c'est-à-dire le 14 et 15, je crois, ou 15 et 16
D'accord, ouais.
novembre, donc le samedi soir et le dimanche après-midi, avec la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Et puis deux œuvres, l'hymne à la justice de Magnard, qui est une chose assez extraordinaire, qui a été écrite à l'occasion de l'affaire Dreyfus par Magnard. Et puis l'ouverture Léonore III de Beethoven, voilà pour le programme à venir.